Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce mardi. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, pour vous accompagner pendant une heure en français. Et au sommaire de cette émission, le journal, les sports et comme chaque mardi, le journal de la semaine politique. Et d'abord les titres du journal de ce mardi 10 février. Le Premier de Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns, a défendu les actions de la police lors de la manifestation à Sydney contre la visite du président israélien. Le sénateur libéral Jonathan Dunham affirme qu'Angus Taylor doit clairement indiquer s'il compte contester le leadership de Susan Lee tout en reconnaissant que son parti a encore du travail à faire pour rétablir la confiance du public. En Cisjordanie occupée, les Palestiniens alertent sur le fait que les nouvelles mesures israéliennes pourraient rapidement bouleverser la situation sur le terrain et compromettre davantage les espoirs d'une solution à deux États. Et on passe au journal de ce mardi. Le premier de Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns, a défendu les actions de la police lors de la manifestation à Sydney hier contre la visite du président israélien. Les manifestants rassemblés devant l'hôtel de ville de la ville pour protester contre la venue d'Isaac Herzog en Australie ont été arrêtés et bousculés par la police. La police indique que 27 manifestants ont été arrêtés, dont 10 personnes pour agression contre des agents. Chris Minns a reconnu que les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux étaient choquantes, mais il affirme que les agents ont réagi de manière appropriée pour empêcher tout franchissement du cordon de sécurité.
New South Wales police had to keep both protesters and mourners separate so that as disturbing as the scenes were last night on the news, they weren't even worse as a result of thousands of people clashing together on the streets of Sydney. I understand that there's been criticisms of New South Wales police. I just want to make it clear, they were caught in an impossible situation. They did their job by keeping those groups separate, and we want to thank them for their service to the people of New South Wales. It is a difficult, combustible situation.
Le sénateur libéral Jonathan Dunham affirme qu'Angus Taylor doit clairement indiquer s'il compte contester le leadership de Susan Lee tout en reconnaissant que son parti a encore du travail à faire pour rétablir la confiance du public. Il ajoute que le parti doit s'efforcer de mieux communiquer et de promouvoir efficacement sa politique auprès des Australiens.
The policies we're putting out there, the way we're selling them, the communication we're having with the Australian people is part of the problem. It isn't all at the feet of one person, the leader of our party. We all have a role to play. And so for all this talk of changing leaders and whatnot, that is not the answer to every problem we face. We have a lot of work to do and we have to get on and do it.
Le sénateur Andrew Bragg du Parti libéral affirme n'avoir pas discuté avec Angus Taylor de ses projets de prise de contrôle du parti. Le sénateur Bragg a esquivé les questions concernant le leadership de Susan Lee suite à la scission puis à la réunification de la coalition. Andrew Bragg a refusé de confirmer s'il soutiendrait ou non Madame Lee si Taylor se présentait à la tête du parti.
And of course, we always talk to colleagues, and that's to be expected. But the endless focus on these issues, I think, is one of the reasons why we have been marked down by the Australian people in the recent polls, and we have to work very hard to get back to policy, because that, after all, is the job.
Le sénateur Matt Canavan du Parti national exige que le gouvernement fédéral mette immédiatement fin à ce qu'il qualifie de la politique migratoire d'ouverture des frontières afin de préserver le niveau de vie des Australiens. Il soutient que le système actuel de visa étudiant est une véritable escroquerie qui exerce une pression immense sur le marché immobilier et les hôpitaux du pays. Le sénateur du Parti national reconnaît que la coalition a retardé le lancement de sa propre politique migratoire suite aux événements tragiques de Bondi Beach afin de privilégier la cohésion sociale. Le sénateur Canavan affirme que le rôle des politiciens est d'améliorer la vie des Australiens et non d'offrir un refuge à des milliards de personnes à travers le monde.
The other major thing we need to do is to end the open borders migration policy of the Labor government. They're effectively allowing anybody to come into this country, and our student visa system has turned into an absolute scam.
Le gouvernement fédéral lance son tout premier plan spécifique de lutte contre la violence familiale, conjugale et sexuelle envers les femmes et les enfants des Premières Nations. Ce plan fait suite à l'enquête sénatoriale historique sur les femmes et les enfants des Premières Nations disparus et assassinés. Il sera mis en œuvre parallèlement au plan national pour mettre fin à la violence faite aux femmes et aux enfants et prévoit un investissement de 218,3 millions de dollars sur 4 ans pour la création d'une quarantaine d'organisations communautaires autochtones chargées d'offrir des services spécialisés et adaptés aux besoins de la communauté. La ministre des Services sociaux, Tania Plibersek, explique que ce plan répond à des années de demandes de la part des femmes des Premières Nations qui affirment que leurs expériences sont différentes et que les solutions doivent être adaptées à leurs besoins.
Solutions need to be locally driven, locally designed, locally staffed and locally delivered for some of these very remote communities. All of the work needs to have engagement for the people that it's supposed to help. And so an Aboriginal and Torres Strait Islander plan designed by Aboriginal and Torres Strait Islander people, led by Associate Professor Muriel Bamblett, will make a huge difference.
Ailleurs dans le monde, le Premier ministre britannique Starmer refuse de démissionner après la démission d'un deuxième de ses principaux conseillers suite à la nomination de Peter Mandelson comme ambassadeur du Royaume-Uni aux États-Unis. Le directeur de la communication, Tim Allen, a démissionné en boitant le pas au chef de cabinet de Morgan McSweeney qui avait démissionné après avoir assumer la responsabilité de conseiller sur cette nomination. Cette controverse soulève des questions quant au jugement de Keir Starmer, notamment en raison des liens passés de Mandelson avec le défunt sexuel délinquant Jeffrey Epstein, tandis que Keir Starmer appelle à l'unité et insiste sur sa détermination à poursuivre ses efforts. Le chef du parti travailliste écossais, Anas Sawa, affirme que cette querelle nuit au parti et que le Premier ministre devrait démissionner.
My first priority and my first loyalty is to my country, Scotland. And I am not willing to sacrifice Scotland's NHS, our schools, our communities, our towns, cities, villages and islands to a third decade of an SNP government. That's why the distraction needs to end and the leadership in Downing Street has to change.
La police norvégienne enquête sur 2 diplomates haut rang dans le cadre d'une affaire de corruption liée à leur lien avec Jeffrey Epstein. Selon la police, Mona Jewel, qui a démissionné dimanche de son poste d'ambassadrice en Jordanie et en Irak, est soupçonnée de corruption à grande échelle et son époux, l'ancien ministre Terje Røed Larsen, de complicité dans cette même affaire. Les avocats de Madame Jewel et de Røed Larsen affirment coopérer pleinement avec l'enquête et contestent le bien fondé des accusations portées contre eux. Les documents du département de la justice américain relatifs à Epstein révèlent entre autres mention de Madame Jewel et de Røed Larsen que le couple avait prévu de se rendre sur l'île privée d'Epstein avec 2 enfants en 2011 sans qu'il soit possible de confirmer si ce voyage a eu lieu. En Cisjordanie occupée, les Palestiniens alertent sur le fait que les nouvelles mesures israéliennes pourraient rapidement bouleverser la situation sur le terrain et compromettre davantage les espoirs d'une solution à 2 États. À Hébron, habitants et responsables affirment que les initiatives visant à étendre l'autorité israélienne et à soutenir l'acquisition des terres par les colons risquent d'accélérer les déplacements de populations, l'expansion des colonies et les démolitions de maisons dans les zones où les Palestiniens bénéficient d'une autonomie limitée. Les dirigeants locaux indiquent qu'aucune notification officielle n'a été transmise, mais l'expérience montre que les annonces sont souvent suivies d'actions rapides. Asma Sharabati est la maire par intérim d'Hébron.
Officially, we have received no notification and no communication. But these decisions are being announced through the media, and their implications require urgent attention, because in recent years, such announcements have quickly turned into dangerous actions on the ground.
Les responsables palestiniens appellent désormais à une intervention internationale, avertissant que ces mesures menacent les fondements du processus de paix établi dans le cadre des accords d'Oslo. Des responsables de plusieurs pays demandent que Jimmy Lai, figure pro-démocratie, bénéficie d'une libération conditionnelle après sa condamnation à 20 ans de prison par un tribunal de Hong Kong. Les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, l'Union européenne, le Japon et Taïwan ont exprimé leur inquiétude. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré que cette sentence illustrait jusqu'où la Chine était prête à aller pour faire taire les défenseurs des libertés fondamentales à Hong Kong. Le porte-parole Jeremy Lawrence a indiqué dans un communiqué que le haut-commissaire Volker Turk déplorait cette sentence.
Our office has reviewed the verdict against Jimmy Lai and is concerned that it criminalizes the exercise of freedom of association and expression, including media freedoms, rights which are protected under international human rights law.
C'était le Haut-Commissariat des Nations Unies, Jeremy Lawrence. En Australie, à nouveau, la plateforme de jeux controversée Roblox est sous surveillance suite à des signalements persistants de prédateurs ciblant les enfants avec des contenus sexuellement explicites et incitant au suicide. La ministre des Communications, Annika Wells, a demandé une réunion urgente avec la plateforme 2 mois après l'entrée en vigueur en Australie de l'interdiction des réseaux sociaux la plus stricte au monde. Interdiction qui ne s'applique pas à Roblox. Elle se dit alarmée par les allégations selon lesquelles de jeunes utilisateurs de Roblox sont exposés à des contenus graphiques et gratuits créés par les utilisateurs et qualifient de préoccupantes les informations faisant état d'enfants approchés et manipulés par les prédateurs. Madame Wells a interrogé l'autorité de régulation d'Internet sur les pouvoirs qui pourraient être renforcés pour lutter contre les dangers sur Roblox, tandis que le gouvernement travaille à l'élaboration d'une loi imposant une obligation de vigilance numérique. Les personnes en détresse, je rappelle, peuvent contacter Lifeline au 13 11 14, 13 11 14, ou le service d'écoute et de prévention du suicide au 1300 659 467, 1300 659 467, ou Kids Helpline au 1855 1800. La météo pour ce mardi en Australie, à Perth, il fera 27 degrés, Adélaïde 35, Melbourne 25, Hobart 25, Canberra 31, Sydney 28, Brisbane 33, Darwin 31 et à Alice Springs un maximal de 34 degrés. Fin du journal et merci à vous de l'avoir suivi. Et bientôt 18 minutes sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français et on passe maintenant au journal des sports et vous êtes en compagnie de Bertrand Tungandamé.
l'actualité sportive de ce mardi, on commence avec le football, avec la Ligue 1. Le PSG a signé la plus belle performance du week-end en écrasant Marseille 5-0 au Parc des Princes. Porté par un Ousmane Dembélé des grands soirs, le PSG a repris ses bonnes habitudes. Au micro de Cédric de Oliveira, Ousmane Dembélé a confié qu'en marquant son but, bien plus qu'une victoire contre leur grand rival, l'objectif du PSG était la tête du classement. On l'écoute.
C'est magnifique, c'est un match important. Et voilà, on avait à cœur de gagner ce match-là. On sait que Lens avait gagné, il fallait repasser devant. Après, on a bien négocié la première partie de saison parce que la saison dernière était beaucoup plus difficile. Et voilà, on sait que les moments importants vont arriver. Et, voilà, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, voilà, on va donner le maximum.
Les buts de Dembélé, Lee, Kraskela et un but contre son camp ont scellé une prestation qui maintient le PSG en tête du classement. Ailleurs, Lens s'est imposé 3-1 face à Rennes, tandis que Brest a confirmé sa bonne forme en dominant Lorient 2-0. Lyon a également engrangé des points précieux en s'imposant 1-0 à Nantes. Le PSG s'est donc hissé à la tête du classement, tandis que Lens, vainqueur de Rennes, reste à 2 points dans le rétroviseur. Et toujours en Ligue 1, le couperet est finalement tombé sur Habib Bey, l'entraîneur sénégalais du Stade Rennais, a été officiellement limogé ce lundi 9 février. Une suite logique compte tenu de la situation chaotique qui règne dans le vestiaire rennais. Explication Antoine de Saint-Léger, RFI.
4 lourdes défaites de rang, des tensions supposées avec certains cadres du vestiaire et surtout un sentiment net d'impuissance. Pour ses dirigeants, Bane n'était plus l'homme de la situation, lui le grand artisan du rebond des Rouges et Noirs il y a un peu plus d'un an. Quand il arrive l'hiver dernier, le club est aux portes de la relégation en championnat, 16e sur 18, engagé dans une mission maintien que le Sénégalais va relever haut la main avec une 12e place finale et des ambitions pour la nouvelle saison. Ambitions contrariées par un mercato d'été trop moyen, des résultats irréguliers et de premières crispations internes autour de sa communication. À 48 ans, l'ancien consultant vedette de Canal Plus et RFI vivait sa première expérience à la tête d'un club de Ligue 1. Elle lui laissera sans doute un sentiment d'inachevé, avec à son actif, quand même, l'éclosion de jeunes talents, Jérémy Jacquet, Djaoui Cissé, Kader Meïté, une moyenne de points très honorable et une 6e place au classement actuel dans les clous pour une qualification européenne.
En Premier League, le suspense était à son comble à St James Park où Brentford a difficilement battu Newcastle 3-2 et à Anfield, Manchester City a arraché une victoire cruciale 2-1 face à Liverpool. Un résultat qui pourrait avoir des conséquences majeures dans la course au titre. Dans les autres résultats, Brighton s'est incliné face à Crystal Palace 0-1. Arsenal reste à la tête du classement de la Premier League avec 56 points. Deuxième, Man City avec 50 points. Et Aston Villa occupe la 3e marche avec 50 points. Et dans le football australien, ce week-end se jouaient des matchs comptant pour la 16e journée. Ce dimanche, match nul entre Western Sydney Wanderers et Melbourne City 1-1. Les Central Coast Mariners ont battu les Brisbane Roar 2-1. Newcastle reste en tête du classement avec 30 points d'avance. Auckland arrive en 2e avec 28 points. Et 3e, Sydney FC avec 25 points. Côté féminin, en A-League Women, ce week-end se jouait la 14e journée. Western Sydney s'est incliné face à Adelaide United 0-1. Sydney s'est incliné face à Canberra United 1-2 et Melbourne City a battu Brisbane Roar 5-2. Et sur le continent africain, en Ligue des Champions, la fin de la 5e journée de la Ligue des Champions s'est soldée par une victoire du Stade Malien face à l'Espérance Sportive de Tunis 1-0 ce dimanche. Les Égyptiens des Pyramids, eux, ont largement dominé Rivers United 4-1. Le Stade Malien et Pyramides sont donc en quart de finale. Toujours sur le continent africain, FC Saint-Éloi Lupopo accueillait Mamelodi Sundowns pour le compte de la 5e journée toujours, ce dimanche 8 février. Les Congolais et les Sud-Africains n'ont pas réussi à se départager. Résultat de la rencontre, 1-0. Malgré le match nul, les Congolais restent en lice dans ce duel où la deuxième place était en jeu. Il faut signaler que ce sont les Congolais qui ont ouvert le score à la 19e minute. Il a fallu attendre la seconde période pour voir Mamelodi Sundowns égaliser grâce à Jaden Adams qui a profité d'un corner bien tiré. Par contre, les Sud-Africains de Stellenbosch FC ont vu leurs espoirs de Coupe de la Confédération de la CAF s'envoler après une défaite historique 3-0 face à l'AS Otoho dimanche après-midi. Ce match du groupe C, disputé sur la pelouse synthétique du stade Alphonse Massamba Déba à Brazzaville, marque la troisième défaite du Stellenbosch en 5 rencontres. À une journée de la fin du championnat, le club ne peut plus prétendre à une place parmi les deux premiers du classement. Cette victoire assure à Otoho une place en 8e de finale, à la grande satisfaction de Sekou Sek, entraîneur de l'équipe congolaise.
Il faut remercier ces jeunes, parce que ce n'était pas évident, avant le début de ce tournoi que nous allons faire ce parcours. Mais je dirais bien bravo aux jeunes, Dieu merci, ils étaient là, ils ont répondu présent. On a beaucoup travaillé pendant nos séances d'entraînement. On les a fait comprendre que c'est difficile parce qu'il n'y a pas de championnat. Mais bon, ça ne peut pas être une raison pour nous de ne pas jouer au football. Donc on s'est battu, on s'est donné la main et le résultat est là. Donc je pense qu'ils vont continuer à faire rêver le peuple congolais. Et nous, on va continuer.
Autre grande nouvelle venant du football africain. À 35 ans, Nicolas Nkounou, défenseur emblématique des Lions Indomptables, a annoncé sa retraite du football professionnel. L'ancien joueur de Marseille tire sa révérence après 17 ans de carrière sur les terrains européens et africains. Avec 120 sélections en équipe nationale, Nkoulou a été sacré champion d'Afrique et a marqué le but de la finale de la CAN 2017 face à l'Égypte. Pilier de la sélection, Nicolas Nkoulou a disputé 3 Coupes du Monde, 2010, 2014 et 2022. Retour sur le parcours d'une référence du football avec Joël Vadem pour RFI.
Dans un football où les feux des buteurs dominent souvent les projecteurs, Nicolas Nkoulou a bâti sa légende autrement. Par la science défensive, gestes précis, anticipation chirurgicale, relance impeccable sont sa marque de fabrique. Formé à la Kadjisport Academy, il rejoint l'Europe à 17 ans. Monaco le révèle, Marseille le forge. Au Vélodrome, il s'impose comme un patron silencieux et soulève la Coupe de la Ligue 2012. Puis l'Italie, où il devient pilier du Torino avec 135 matchs en Série A. L'Angleterre, la Grèce et la Turquie complètent une carrière longue, exemplaire et respectée. Mais le sommet d'Nkoulou reste le Cameroun. 3 Coupes du Monde disputées et surtout la CAN 2017 remportée. Ce soir-là, mené par l'Égypte, les Lions vacillent. Jusqu'à ce que Nkoulou surgisse, égalise et fasse basculer le match vers le 5e cercle continental des Lions indomptables. Il quitte aujourd'hui la sélection avec l'image d'un lion de devoir, un roc indomptable dont le nom restera comme repère pour les générations futures.
En rugby, la concurrence est bien prévenue. Les Bleus ne lâcheront pas leur couronne du tournoi des 6 nations sans combattre. Victorieux 36-14 d'une Irlande vieillissante et empruntée jeudi soir au Stade de France, le 15 de France a signé une démonstration de force avec un Mathieu Jalibert omniprésent. Après le match d'ouverture avec des tricolores en très bonne forme, le tournoi des 6 nations de rugby a offert un week-end mémorable. L'Italie a créé la surprise en battant l'Écosse 18-15 dans un match palpitant disputé sous une pluie battante à Rome. De son côté, l'Angleterre s'est montrée impitoyable à Twickenham, écrasant le pays de Galles 48-7 et s'affirmant comme favorite. Et aux Jeux Olympiques d'hiver de Milan Cortina, l'équipe américaine a célébré 2 triomphes majeurs. Bridget Johnson a décroché l'or en descente féminine, tandis que les États-Unis ont également remporté l'or par équipe en patinage artistique, grâce notamment à une performance époustouflante d'Ilia Malinin dans son programme libre. Ce week-end a aussi été marqué par une frayeur. La légende américaine du ski Lindsey Vonn a été victime d'une violente chute en descente et a dû être héliportée. On confirme cependant que son état est stable après son opération. Le Norvégien Johannes Hoslot Klerbo a confirmé sa domination olympique en remportant sa 6e médaille d'or en skiathlon masculin. Dans leur entrée en lice, les tricolores n'ont pas déçu en grangeant leur première médaille dès leur entrée en lice. Christophe Diramzian revient sur ce premier jour des JO d'hiver, presque parfait pour les athlètes français.
Première course, premier coup de maître pour des Bleus attendus dès l'entame de la quinzaine dans cette épreuve où ils sont montés sur tous les podiums internationaux depuis 2022. Julia Simon conclut impeccablement un relais donné par une Lou Jeanmonod impressionnante sur les skis et lancé par Éric Perrault, déjà sacré pour sa première participation aux Jeux.
C'est incroyable, 1 sur 1, c'est quand même plutôt des bonnes stats. Non, c'était un super moment. On a savouré ça avec l'équipe depuis le début de la journée, on a partagé beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, beaucoup de stress aussi. Et d'arriver à réussir ça tous ensemble, chacun avec nos performances, c'est énorme.
Émouvant aussi pour Quentin Fillon-Maillet, roi des JO d'hiver de Pékin. Anter Selva lui offre un troisième titre olympique avec un supplément d'âme.
J'ai vécu Pékin avec beaucoup de succès, mais pas de public. On avait une météo compliquée et les émotions étaient différentes. Et là, vraiment, je trouve que c'est ce qui manquait à la médaille d'or. Et là, on l'a enfin avec ce public, la famille. Donc, c'est juste incroyable.
Au-delà de la performance, c'est la confiance qui semble se dégager du collectif. Cyril Burdet, le patron du groupe féminin.
Je ressens beaucoup de sérénité dans l'équipe. Là, depuis qu'on est arrivé ici, il y a beaucoup d'envie et je trouve que l'équipe est sereine, ça s'est senti aujourd'hui sur tous les aspects et de la préparation et sur la piste. Là j'avoue qu'en tant que coach ça fait longtemps que je voulais vivre un titre olympique et aujourd'hui c'est une case de cocher et ça fait vraiment plaisir.
Et la prochaine case du calendrier arrive mardi avec l'individuel masculin 20 km où la France a un titre olympique à défendre en étant visiblement bien lancée.
Football américain cette fois-ci, l'Australien Michael Dixon est devenu le deuxième Australien à disputer un Super Bowl américain et à le remporter. Dixon faisait partie de l'équipe des Seahawks de Seattle qui a vaincu les Patriots de la Nouvelle-Angleterre 23-13 pour décrocher le titre suprême. Cette victoire marque le deuxième Super Bowl de l'histoire de la franchise des Seahawks et leur premier depuis 2014. Fin de l'actualité sportive de ce mardi, suite du programme dans quelques instants.
On passe à la semaine politique et vous êtes en compagnie de Bertrand Tungandamé et de Patricia Meunier.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Dans la semaine politique cette semaine, l'Australie et l'Indonésie ont signé vendredi 6 février 2026 un important traité de sécurité engageant les deux pays à renforcer leurs consultations en matière de sécurité et à envisager des réponses conjointes aux menaces dans la région. Explication avec Patricia Meunier.
Un nouvel accord vient d'être signé vendredi dernier à Jakarta entre l'Australie et l'Indonésie. Ce traité de sécurité ouvre la voie à une coopération plus étroite et à l'établissement de nouvelles installations militaires dans l'archipel indonésien. Canberra cherche à renforcer sa puissance militaire dans la région Asie-Pacifique pour contrebalancer l'influence croissante de la Chine. De son côté, l'Indonésie conserve une politique plus neutre afin de ne pas froisser Beijing, qui constitue son principal partenaire commercial. Ce traité s'appuie sur un accord de défense bilatéral signé en 2024 qui prévoyait d'instaurer une coopération rapprochée entre les deux pays afin de contrer les menaces dans la région. Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a salué le nouveau pacte de sécurité conclu avec l'Indonésie. On l'écoute.
This agreement signals that Australia and Indonesia's relationship is stronger than it has ever been. The fact that we are signing this treaty today is testament to President Prabowo's strong leadership and his personal commitment to promoting security in our region and indeed around the world.
Le nouveau traité s'inspirera de l'accord entre l'Australie et l'Indonésie de 1995. Il évite notamment une obligation de défense mutuelle contraignante. Ces structures garantissent que le pacte demeure un processus de consultation plutôt qu'une obligation militaire stricte. On écoute les explications de Susanna Patton de l'Institut Lowy à Sydney.
There is still a very big difference between the way that Australia and Indonesia see the world, and this agreement doesn't fundamentally change that. And I think it's hard to argue that either country will really change the trajectory of its own foreign policy as a result of this treaty. So it's a welcome development, but perhaps not as significant as the term watershed, which the Prime Minister is using, would imply.
Tim Lindsay, professeur à l'Université de Melbourne et expert reconnu L'Union droit indonésien considère que l'augmentation des visites australiennes en Indonésie est un signe positif. En revanche, il rappelle que le style de leadership du président actuel, Prabowo Subianto, rappelle celui de Suharto.
The current crackdown on democracy activists and civil society in Indonesia by the government of Prabowo Subianto is much more concerning for Australia, if not in the immediate present, certainly in the longer term. After riots in August last year, responding to the misconduct of politicians and police brutality, riots emerged. A crackdown followed in which thousands were arrested, some disappearances took place, torture has been alleged, and now hundreds of democracy activists face trial. President Prabowo has blamed these riots both on activists but also on covert foreign interference. He's described the activists as foreign lackeys and spoken of shadowy foreign forces who he claims are manipulating these activists, who he describes as traitors and terrorists.
C'est la cinquième visite d'Anthony Albanese en Indonésie depuis qu'il est devenu Premier ministre en 2022.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
13h et bientôt 42 minutes sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français. Et maintenant, on va parler de cinéma, de l'Alliance française French Film Festival qui débute bientôt au début du mois de mars. Et nous avons comme invité de cette émission Cédric Clapiche qui revient sur La Venue de l'Avenir, son nouveau film qui va ouvrir le festival du film français de l'Alliance française en 2026. Il est avec notre collègue Christophe Mallet.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
C'est un super plaisir de recevoir dans l'émission Cédric Clapiche pour son film La Venue de l'Avenir. Bonjour.
Bonjour.
Alors ouais, super plaisir parce que plaisir personnel, j'adore, on va dire, tout le monde doit vous dire, j'adore ce que vous faites. Et aujourd'hui, on va parler de la Venue de l'Avenir qui ouvre le festival du film français ici. Un film que j'ai vu, qui est vraiment incroyable, je tiens à le dire. Racontez-nous un petit peu l'histoire justement de ces cousins qui héritent d'une maison et qui les fait voyager en 1895 au monde des impressionnistes.
En fait, au début, avec mon scénariste, on avait envie de faire un film d'époque. Donc, c'était vraiment l'idée de parler d'une autre époque et surtout de cette époque-là, parce que c'est une époque qui a été extrêmement stimulante. C'est-à-dire qu'il y a vraiment toute une série d'inventions, toute une série de choses qui changent le monde, la vie à cette époque-là. Donc, il y a eu l'arrivée du train, de l'électricité, du cinéma, de plein d'inventions comme ça qui ont bouleversé la vie. Et on s'est dit que c'était intéressant, en fait, de faire un face-à-face entre l'époque d'aujourd'hui et cette époque-là, en montrant que nous aussi, on vit dans une époque de bouleversement technologique, et que y a une espèce de choses qui se répondent. Et donc, du coup, l'histoire de cette famille qui découvre une vieille maison, qui va enquêter sur leurs ancêtres qui habitaient dans cette maison, c'est une espèce de porte ouverte pour faire un face-à-face avec les deux époques.
Et ce qui est intéressant dedans, c'est cette idée qu'à l'époque, c'était on part des pigments aux pixels. C'était une époque où la photographie arrivait. Je trouve que c'est très très beau d'ailleurs, c'est très bien montré dès le début d'ailleurs, quand on voit cette influenceuse qui est dans le musée et qui a qu'une préoccupation, c'est est-ce qu'on voit assez elle, est-ce que le tableau est trop sombre par rapport à sa tenue, etc. Et c'est, on prend des raccourcis très vite aujourd'hui de dire que c'est un monde moderne qui devient fou. Mais à l'époque, il y avait les mêmes préoccupations entre la photographie, la peinture et que c'est, ils vivaient à peu près les mêmes choses que nous.
Bah, c'est bien de voir à quel point, bon, c'est ce que se disent les deux jeunes garçons. Il y en a un qui est peintre et l'autre qui est photographe. Et le photographe est persuadé que la peinture, ça va s'arrêter parce que la photographie va remplacer la peinture. On sait à quel point la photographie a pris de l'importance, mais ça n'a pas remplacé la peinture. Donc, on vit ce genre de choses aujourd'hui. Et encore une fois, c'est vraiment ça qui était intéressant, c'était de voir pourquoi les choses changent, mais les choses ne changent pas non plus, quoi. C'est-à-dire que on a appelé le film L'avenue de l'avenir. Parce que l'avenir, à chaque fois, on ne sait pas qu'est-ce que ça va être, l'avenir. Mais c'était vrai il y a 100 ans et c'est vrai encore aujourd'hui, quoi.
Ouais, ouais. Et puis, il y a ce chauffeur aussi de la calèche qui dit à la dame quand elle part pour vivre et expérimenter Paris, il lui dit, oh, le monde devient fou.
Ouais, ouais, ouais. Non, non, absolument. Il y avait une sensation du monde qui s'accélérait à l'époque et que lui, il conduit une charrette. Elle va mettre entre 3 et 4 jours pour venir à Paris et aujourd'hui, on met 3 heures. Et c'est le début du monde qui s'accélère, disons, à ce moment-là.
Ce monde des impressionnistes, c'est quelque chose qui vous a toujours... T'es dans un coin de votre tête, vous parlez du film d'époque, c'était presque une évidence de faire sur ce sujet-là.
Pas une évidence, mais c'est vrai que c'était un mouvement que j'adore, quoi. Et donc, j'ai toujours aimé ce mouvement-là, et peut-être plus particulièrement Claude Monet. Et c'est vrai que, à partir du moment où j'ai enquêté sur l'époque, que j'ai été au musée Marmottan, musée à l'Orangerie des Tuileries, que j'ai vu ces toiles de Monet, quand on commence à en voir d'une façon un peu systématique, on voit à quel point c'est important, quoi, à quel point c'est fou. Le travail que Claude Monet a fait est hallucinant. J'ai encore découvert un tableau il y a 2 jours au Petit Palais à Paris. J'étais voir une exposition. Il y a un tableau de Claude Monet qui est incroyable. Ce peintre est fou, c'est-à-dire que c'est vraiment une qualité de peinture qui est assez incroyable, quoi. Plus on s'interroge ou plus on s'intéresse à lui, et plus on voit à quel point il est maître, quoi.
Il y a aussi cette notion des jardins et qu'il a façonné jardin pour façonner ses tableaux. C'est intéressant de le comprendre comme ça.
Ouais, ouais. Bah c'est ce qu'il dit, c'est qu'il a beaucoup voyagé dans sa vie, puis il y a eu un moment où il s'est basé à Giverny, il commençait à être vieux et de plus en plus malade, et que fabriquer son jardin, c'était continuer à voyager chez lui, quoi. Et donc, il tout le rapport qu'il créait entre l'eau, la lumière et les fleurs, c'était une façon, et sa façon de peindre ça, c'était une façon de continuer à voyager, même s'il pouvait plus complètement le faire, quoi.
Le film pivote beaucoup autour de la première exposition, quand le monde des impressionnistes devient, d'ailleurs les impressionnistes, ça vient du nom impression sur le tableau de Monet d'ailleurs, mais pour vous, c'était un plaisir de faire revivre ces impressionnistes dans leur monde à eux, avec ces étrangers qui arrivent, ces quatre étrangers qui viennent, ou 5 étrangers qui viennent visiter ce monde-là, et de vous pouvoir le mettre en image autre que dans un documentaire, de créer la fiction autour de ça.
Ouais, c'est ça, c'était vraiment ce plaisir-là. Je pense que c'est ces 4 cousins qui sont transportés dans le temps. Ils sont comme le spectateur du film, qui lui aussi, j'espère, est transporté dans le temps. Et donc, l'idée, c'était ce fantasme-là, de faire un voyage dans le temps et de le communiquer au spectateur. J'ai l'impression que aller à la première exposition impressionniste en 1874, moi, je peux avoir ce fantasme-là. Je pense que je suis pas le seul. Et c'est vrai que ça fabrique une émotion, quoi. C'est à la fois pour fabriquer de la comédie, mais aussi pour fabriquer une émotion de qu'est-ce que ça fait d'aller voir Degas, Renoir, Berthe Morisot, Claude Monet, de voir qui étaient ces gens-là à ce moment-là, etc. Donc, ouais, c'est un fantasme.
Vous parlez aussi pas mal, il y a un message sur la technologie, l'arrivée de nouvelles techniques, vous mentionnez beaucoup les peintures en tube qui n'existaient pas avant et qui ont permis aux impressionnistes de sortir de chez eux. Et il y a une relation avec la nouvelle vague dans le cinéma pour vous. Et ce qu'il y a, les nouvelles pellicules, les nouvelles technologies qui ont aussi permis au cinéma de sortir. Il y a une relation là.
Oui, c'est fou de voir à quel point il y a vraiment une très grande proximité entre ce qui a fait le succès de l'impressionnisme et ce qui a fait le succès de la nouvelle vague. On peut presque dire que c'est la même chose transposée à donc 60 ou 70 ans d'écart, parce que oui, la nouvelle vague, c'est vraiment lié au fait d'inventer des nouvelles pellicules, des nouvelles caméras, des nouvelles façons de prendre le son, du coup de sortir des studios, de plus recomposer la réalité en studio de la même façon que les peintres étaient obligés de peindre en atelier, que l'invention du tube de peinture leur a permis d'aller dans la nature et de peindre dans la nature, ce qui changeait considérablement leur façon de peindre. Donc dans les deux cas, il y a à la fois des inventions technologiques qui font évoluer, et puis en même temps la volonté de coller à l'époque, je dirais. C'est-à-dire que les impressionnistes, ils tournent beaucoup le monde moderne. Il y a beaucoup de tableaux où on voit des trains ou des choses qui représentaient la modernité pour eux, ou des cheminées d'usine, des choses comme ça, et le mélange entre les cheminées d'usine et la nature. Et que dans la nouvelle vague, il y a vraiment quelque chose aussi, parce que c'était en 59 ou dans le début des années 60, c'était l'après-guerre, et donc il y a une description de la vie de l'après-guerre, et le fait de coller comme ça à la réalité d'une époque, c'était dans les deux cas, ça a été quelque chose d'important, quoi.
Il y a un moment touchant dans le film quand le groupe se retrouve sur le port du Havre et qu'on s'aperçoit que la peinture de Monet, elle a été prise d'un hôtel qui n'existe plus. Alors on suppose que c'est toute une barre d'hôtels qui a peut-être été détruite pendant les bombardements de la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, c'est assez émouvant de se retrouver à cet endroit-là, à ce moment-là, et d'avoir un peu cette explication de texte aussi de cette peinture.
Oui, c'était une façon de vulgariser, parce que tout ça est une réalité, c'est qu'Impression Soleil Levant a été peint là-bas. On n'a pas menti, il a la vue qu'il regarde, c'est la vue que lui regardait par la fenêtre de l'hôtel. Donc, comme vous dites, il y a quelque chose d'émouvant de faire une sorte de pèlerinage dans un endroit qui marque quelque chose dans l'histoire de l'art, c'est-à-dire qu'Impression Soleil Levant donne son nom à l'impressionnisme, crée un mouvement de peinture lié à cette notion de capter un instant, c'est-à-dire que lui, le soleil se lève et il veut capter la lumière ou les couleurs qui existent pendant quelques secondes, et bon, il va mettre 3 heures ou plusieurs heures à faire cette peinture, mais il est dans la volonté de décrire un instant, ce qui n'était pas forcément une volonté des peintres auparavant, et certainement poussé par ce qu'était la photographie, qui est justement la notion de l'instantané. Cet endroit-là, il est marquant, en fait. Il est marquant pour l'histoire de l'art. Et il y a vraiment un côté relique au sens religieux. C'est-à-dire que c'est ce qui reste de ces moments-là, quoi.
Absolument. Alors, j'ai une toute dernière question. Après, on va devoir y aller. J'aurais pu parler une demi-heure avec vous, mais on n'a que 10 minutes. Mmh. Le casting, Vincent Mateigne, Suzanne Lindon, il y a Abraham Walper, il y a Cécile de France. Est-ce qu'il s'est imposé tout de suite à vous? Et dedans, on retrouve des acteurs que vous aimez bien. Cécile de France, vous la connaissez plus, L'Auberge espagnole, voire avant.
Oui.
Il y a une récurrence dans le casting.
En fait, les deux seuls que je connaissais, c'était Cécile de France et Zindine Soilem. Zindine, il est dans tous mes films. Cécile, effectivement, je l'ai connue sur L'Auberge espagnole, et je crois que c'est le 6e film qu'on fait ensemble, ou le 5e. Donc, on se connaît bien. Et puis, tous les autres, j'avais jamais travaillé avec eux. Et c'est pas été un casting facile, parce que chaque personnage a besoin d'être très particularisé, je dirais. Donc, il fallait trouver les bonnes personnes. Suzanne Lindon, c'est vraiment... moi, je voulais quelqu'un entre 20 et 25 ans. Elle avait 23 ans, je crois, quand elle a tourné. Et c'est assez fou ce qu'elle fait, quoi, parce que c'est une jeune actrice. Et puis, tous les autres, Abraham Wappler ou Paul Kircher et Vassili Schneider, il y a beaucoup de jeunes acteurs, finalement, dans le film. Et puis, tous les gens plus établis, comme Sarah Giraudot, ou comme Vincent Mackaigne, ou comme Julia Piaton, c'est des acteurs... Enfin, on a la chance en France d'avoir des acteurs qui sont quand même assez exceptionnels. Donc là, c'est vraiment un cadeau de pouvoir travailler avec des gens comme ça, quoi.
Voilà, c'est aussi parce qu'il y a des réalisateurs comme vous, hein, exceptionnels. Hein. C'est Dion Anglin, Catch 22. Merci beaucoup, Cédric Lapuix. C'était un honneur, franchement. Dommage qu'on ne s'est pas vu, mais... un vrai honneur de vous parler, et on va se faire un grand plaisir de voir ce film en ouverture du Festival du film français, donc La Venue de l'Avenir de Cédric Clapiche. Merci beaucoup.
Merci.
Vous êtes passionné de films? SBS On Demand a des centaines de films disponibles, visionnables à n'importe quel moment. Pour le meilleur des films dramatiques, des documentaires, des films d'horreur, des comédies et des films d'amour, allez sur sbs.com.au/on-demand.
Et enfin, d'émission, un rappel des titres du journal de ce mardi 10 février. Le premier de Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns, a défendu les actions de la police lors de la manifestation à Sydney hier contre la visite du président israélien. Le sénateur libéral Jonathan Dunham affirme que Angus Taylor doit clairement indiquer s'il compte contester le leadership de Susan Lee, tout en reconnaissant que son parti a encore du travail à faire pour rétablir la confiance du public. En Cisjordanie occupée, les Palestiniens alertent sur le fait que les nouvelles mesures israéliennes pourraient rapidement bouleverser la situation sur le terrain et compromettre davantage les espoirs d'une solution à deux États. Et voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Belle fin d'après-midi. À bientôt sur SBS en français.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.